comme l'a cité Florine, elle a cité Matthieu 2, versets 1 à 12, avec la venue des mages. C'est vrai que c'est la période de l'épiphanie. On a parlé de l'étoile. Mais ce que je voudrais partager avec vous ce matin, ce n'est pas ce chapitre de Matthieu, mais ce verset. Ce verset qui est souvent cité dans les vœux de Nouvelle Année. « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. » Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Et je veux vous donner un avenir à espérer. Les vœux pour chacun de nous sont de grandir dans la foi, dans une relation d'intimité avec le Seigneur Jésus, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Notre force est en Christ. Et des mauvais jours, il y en a. Il y en a beaucoup en ce moment, comme diraient les enfants, parce que mais nous non plus, on n'a pas connu la guerre, mais on parle de guerre, on parle de la guerre en Ukraine, on parle de ce qui se passe en Israël, les coups d'État dans les pays africains, les attentats, le climat qui s'affole et entraîne des inondations, des tempêtes et tant d'autres situations. Alors, j'ai voulu, à partir de ce verset, approfondir ma connaissance, votre connaissance peut-être aussi, de ce prophète Jérémie, et du contexte dans lequel il a été écrit. Car la situation du peuple d'Israël était devenue complètement rebelle à la loi de Dieu. Je ne dirais pas qu'en ce moment on est complètement rebelle à la loi de Dieu, mais ça n'en est pas loin. L'Éternel nous demande, il est bon de nous souvenir régulièrement de l'action de Dieu dans notre vie, de ce qui nous a conduit à entrer en relation avec lui. Mais nous avons tous aussi nos périodes de crise, comme celles que nous pouvons voir en parcourant le livre de Jérémie. Et des crises, il y en avait. Tous nous pouvons nous souvenir de l'intervention de Dieu, de sa façon d'agir et de la manière dont il a pris soin de nous malgré les difficultés et le mal qui nous ont atteints. Nous souvenir de ce passé est un encouragement pour le futur. Quand nous réalisons que nous avons délaissé Dieu et que nous voulons revenir à lui, nous avons tendance à réagir comme ce peuple d'Israël. C'est ce que je voudrais vous montrer à travers le parcours de ce livre de Jérémie. Le peuple voulait offrir plus de sacrifices, voire même des sacrifices humains. Le peuple adorait des idoles. Les responsables délaissaient le pauvre, la veuve et l'orphelin. Dieu a condamné ces comportements. Ce que Dieu veut avant tout, c'est une vie droite et humble, marquée par l'amour de l'autre, en commençant par le plus faible. Je vous propose de prendre le temps pour voir la décomposition du livre de Jérémie. Et à travers une vidéo d'animation de Bible Project, de parcourir rapidement plus de 50 chapitres de ce livre. 52 exactement. Ben, je vais lire d'ailleurs tout de suite les versets 11 à 14 de Jérémie. Et ça nous permettra de comprendre à travers cette vidéo de Bible Project sur Jérémie, cela nous permettra de comprendre l'étendue du mal qui régnait en Juda et l'immensité de l'amour de Dieu, toujours prêt à nous pardonner. Je voudrais lire avec vous Jérémie 29, les versets 11 qu'on a lu tout à l'heure, et jusqu'au verset 14, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a toujours un contexte dans les versets. Quand on sort un verset de son global, ça nous fait dire des choses. Mais finalement, voilà, « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Aujourd'hui, c'est génial, oui, super, génial. Mais finalement, lisons la suite. Si vous faites la démarche de m'appeler et de me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me trouverez. Moi, le Seigneur, je vous le déclare, si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rétablirai. Je vous ferai sortir de chez tous les peuples et de tous les endroits où je vous ai dispersés. Je vous rassemblerai et je vous ferai revenir en ce lieu dont je vous ai demandé, dont je vous ai amené en exil, déclare le Seigneur. Donc, qui contexte le livre de Jérémie, c'est un des livres des grands prophètes. Il y en a trois grands prophètes. Il y a effectivement Ésaïe, Ézéchiel et Jérémie. Ésaïe, c'est le plus royal, en ce sens que le début de son livre est caractérisé par l'action du prophète auprès des souverains de Juda et par l'annonce d'un roi futur. Ézéchiel, c'est le plus sacerdotal, le plus religieux, car elle est marquée par l'intérêt pour la loi et le temple de celui qui l'aurait voulu être prêtre. Jérémie, lui, joue le rôle de l'homme vivant intensément durant sa vie et son être même, le destin prophétique. De fait, il a subi de plein fouet les événements, les bouleversements de son temps sur lesquels portaient ses oracles. Il était à Jérusalem lorsque les Babyloniens l'ont envahi en 686 avant Jésus-Christ et ont déporté le peuple comme il l'avait annoncé. Il a lui-même été emmené de force en Égypte. La lecture du livre de Jérémie constitue un défi pour le lecteur. Pour moi, personnellement, qui n'aime pas lire, 52 chapitres, c'est compliqué. Et il a fallu faire un résumé à FPSE. Je ne sais pas si tu l'as fait aussi, Sophie. Moi, j'ai fait le résumé de Jérémie. Bonjour. Voilà. Il a fallu que je m'y reprenne en 15 fois parce qu'on avait un nombre de lignes maximum. Alors, résumer 52 chapitres avec je ne sais pas combien de mots, c'était un petit peu compliqué. Pour tirer profit de ce livre, il convient de naviguer correctement dans le texte en distinguant les différents types de passages selon la liste suivante. Jérémie annonce des oracles, des messages transmis de la part de Dieu pour le peuple. Ces messages sont écrits sous forme poétique, avec de nombreuses figures de style, comme des métaphores, des comparaisons. Il y a aussi des oracles contre les nations, contre la nation égyptienne, qui forme la dernière partie du livre de Jérémie, les chapitres 46 à 51. Il y a aussi des messages de la part de Jérémie. Il y a des plaintes. Nous, ça nous arrive aussi d'avoir des plaintes, des lamentations. Jérémie adresse à Dieu des plaintes et des demandes d'intervention. Et puis il y a aussi des récits de gestes symboliques, où l'on voit que le prophète illustrait parfois ses propos de manière visuelle pour mieux frapper les esprits. Des récits historiques et notamment biographiques qui nous révèlent en particulier la manière concrète dont les oracles du prophète étaient reçus par les institutions. J'espère que ça va marcher, je vous invite à regarder, c'est ce résumé qui se trouve dans Bible Project, qui dure 7 minutes, sur le résumé de ce qu'est le livre de Jérémie.
Le livre du prophète Jérémie était un prêtre israélite ayant vécu et exercé sa fonction à Jérusalem pendant les dernières décennies du royaume de Juda au sud. Il fut établi comme prophète pour avertir les Israélites des graves conséquences auxquelles ils exposaient, suite à l'idolâtrie, l'injustice dont ils se sont rendus coupables, ce qui a entraîné la rupture de l'alliance avec Dieu. Il a même prédit que l'Empire babylonien serait mandaté par Dieu pour exercer ce jugement sur Israël, ce qu'il ferait en détruisant Jérusalem et en envoyant le peuple en exil. Et la triste vérité est que ces prédictions se sont réalisées. Jérémie a même expérimenté le siège et la destruction de Jérusalem, puisqu'il a vu de ses propres yeux l'exil se matérialiser. Venons-en à la manière dont ce livre a été constitué, car c'est particulièrement intéressant. Le chapitre 36 nous raconte qu'après 20 ans de prédication orale de Jérusalem, Dieu a ordonné à Jérémie de rassembler tous ses sermons, poèmes et essais pour les mettre par écrit. Jérémie s'est exécuté en s'offrant les services d'un scribe nommé Baruch, qui a transcrit et compilé tous ses messages dans un parchemin. Baruch a également recueilli plusieurs histoires liées à la vie de Jérémie, et a relié le tout pour offrir un meilleur contexte d'ensemble, raison pour laquelle le livre peut faire penser à une anthologie ou à un recueil de collection. Le tout a été organisé pour présenter ce prophète comme un messager de la justice et de la grâce divine. Il s'ouvre donc sur Dieu qui appelle Jérémie à être son prophète. Il lui donne une mission à deux volets. Il sera prophète pour Israël et aussi pour les nations. Ses paroles vont d'une part arracher et abattre, mais aussi construire et planter. En d'autres termes, il devra accuser Israël, puis les avertir du jugement de Dieu à venir, tout en leur donnant un message d'espoir pour l'avenir. Et cette introduction résume parfaitement la première grande section des chapitres 1 à 24. C'est un recueil des écrits de Jérémie datant de la période d'avant l'exil, dont l'idée principale est qu'Israël a rompu l'alliance avec Dieu et violé tous les termes de l'accord consigné dans la Torah. Et à bien des égards, ils se sont compromis en adorant toutes sortes de divinités cananéennes et en bâtissant des sanctuaires à ces idoles à travers le pays. Ce qui a conduit Jérémie à assimiler l'idolâtrie à l'adultère, notamment en qualifiant l'allégeance qu'Israël a fini par faire à d'autres dieux par des termes tels que la prostitution, la promiscuité et l'infidélité. D'ailleurs, Jérémie accuse à plusieurs reprises les dirigeants d'Israël, les prêtres, les rois et autres prophètes de s'être tous corrompus. Ils ont complètement mis de côté la Torah et l'Alliance, ce qui a eu pour tragique conséquence le développement d'une injustice sociale latente. Les personnes les plus vulnérables au sein de la communauté israélienne, notamment les veuves, les orphelins et les immigrés, se faisaient tous exploiter, ce qui constituait une flagrante violation des lois de la Torah. Et le pire est que les dirigeants d'Israël ne semblaient même pas s'en soucier. Tous ces éléments sont par la suite relevés à une étape clé qu'on retrouve au chapitre 7 et qui s'intitule « Le serment de Jérémie dans le temps ». Il se trouve que les Israélites continuent de venir adorer leur Dieu dans le temple, comme si de rien n'était, alors qu'à l'extérieur du temple, ils pratiquent leur adoration à d'autres dieux. Et il y en a certains qui ont même adopté l'abominable pratique cananéenne du sacrifice d'enfants. Sans être trop, Jérémie se lance dans sa très impopulaire déclaration. Le Dieu d'Israël abattra son jugement sur vous. Il détruira son propre temple et punira Israël en se servant d'un ennemi du Nord, disposant d'une armée à laquelle Dieu permettra de conquérir Jérusalem. Et c'est en poursuivant la lecture qu'on découvre qu'il fait référence au grand empire de Babylone. Ce qui mène à la transition du chapitre 25. Pendant la première année du nouveau roi de Babylone, Nebuchadnezzar, alors qu'Israël ne s'est toujours pas réconcilié avec son Dieu, Dieu ordonne à Jérémie d'annoncer que les armées babyloniennes sont en train de foncer sur Israël et tous ses voisins pour conquérir leur territoire et les envoyer en exil pendant 70 ans. Il compare Babylone à une coupe de vin remplie à ras-bord de la sainte colère de Dieu face à l'injustice et l'idolâtrie d'Israël. Coupe dont Dieu fera boire le contenu à Israël et les nations. Alors, ce chapitre est déterminant pour la conception du livre, car tout ce qui suit se portera essentiellement sur les attaques à venir de Babylone. D'abord contre Israël dans les chapitres 26 à 45, puis contre les autres nations au chapitre 46 à 51. La section sur Israël liste d'abord des récits montrant à quel point Jérémie a supplié Israël de revenir de ses mauvaises voies, et comment il les a avertis jusqu'au dernier moment, mais les dirigeants d'Israël l'ont dédaigné et n'ont pas tenu compte de ces avertissements. Cette section s'achève sur un vaste recueil d'histoires sur le siège de Jérusalem suivi de sa destruction par Babylone, et aussi des diverses persécutions dont Jérémie a été victime durant toute cette période avant d'être finalement enlevé et emmené de force en Égypte par un groupe de rebelles israéliens. Alors qu'on est en plein milieu de toutes ces scènes de tristesse, de désastre et de jugement, on note une série de messages d'espoir concernant l'avenir d'Israël, tous rédigés par Jérémie. Il reprend ainsi la prédiction de Moïse selon laquelle, même après qu'Israël ait rompu l'alliance et ait été envoyé en exil, voire de Deutéronome 30, Dieu n'abandonnerait pas son peuple. Bien au contraire, il renouvellerait son alliance avec eux et transformerait leur cœur. Jérémie va même plus loin dans cette promesse, disant qu'un jour, au lieu d'inscrire les lois de la Torah sur des tablettes, Dieu les inscrira dans le cœur de son peuple. Il extirpera la rébellion de leur cœur pour qu'ils arrivent un jour à l'aimer véritablement et à le suivre pleinement. Puis arrivera le jour où Israël retournera en terre promise et où viendra le Messie de la lignée d'David. C'est à ce moment-là que toutes les nations reconnaîtront le Dieu d'Israël comme le vrai Dieu. Ainsi, ces chapitres montrent que malgré le degré d'apostasie d'Israël, Dieu ne permettrait pas au péché de conclure l'histoire de son peuple. Bien au contraire, c'est par sa propre fidélité qu'il fera en sorte d'accomplir ses promesses, quoi qu'il advienne. Ensuite, on découvre le grand recueil de poèmes relatant la manière dont Dieu se servira de Babylone pour juger les nations environnantes d'Israël, notamment l'Égypte, Philistie, Moab, Édom, Ammon, Damas et Hazor. Mais étonnamment, les poèmes les plus longs sont gardés pour la fin. Ils parlent du jugement de Dieu qui s'abattra sur Babylone elle-même. Ce qui montre que même si Dieu se servit de cette nation pour exécuter sa justice, il ne cautionne pas leur violence et leur idolâtrie. Ainsi, Babylone, elle aussi, subira les effets de la justice de Dieu. Et Jérémie dénonce l'orgueil et l'injustice de cette nation. Maintenant, dans ses poèmes, Babylone est d'une immensité telle que cela nous renvoie à l'image de la Babylone décrite en Genèse au chapitre 11. Babylone est devenue l'archétype des nations rebelles. En se servant de leur tendance à se glorifier de leur richesse et de leur puissance militaire, Dieu suscitera l'autodestruction de cette nation. Le livre s'achève sur une histoire tirée de la fin du livre de deux rois, qui décrit l'attaque finale de Babylone contre Jérusalem, comment ils ont détruit les remparts de la ville, brûlé le temple et envoyé le peuple en exil. L'histoire montre comment les avertissements de Jérémie mentionnés au chapitre 1 à 24 sur le jugement à venir se sont réalisés. Mais ensuite, le chapitre se conclut sur une brève histoire concernant le roi israélite en captivité, Joachim, l'héritier de la lignée de David. Le roi de Babylone le libère de prison, est très aimable avec lui et l'invite à manger à la table royale pour le restant de sa vie. Et c'est ainsi que le livre s'achève. C'est un film lueur d'espoir qui fait écho aux promesses d'espoir de Jérémie des chapitres 30 à 33. Car Dieu n'a pas abandonné son peuple ni la promesse de l'avènement d'un futur roi de la lignée de David. Ainsi, bien que ce livre regorge d'avertissements et de jugements, ces derniers mots résonnent comme une note d'espoir en l'avenir. Et voilà ce dont il est question dans le livre de Jérémie.
Bon petit résumé, hein. Je suis assez rapide comme ça, c'est clair. Voilà, 52 chapitres résumés en 7 minutes. J'aurais pas fait mieux, ça c'est clair. Alors, on s'arrête sur ce Jérémie. Bon, c'est vrai que ça m'a interpellé de savoir un petit peu comment ça s'était passé. Mais comment peut-on être interpellé par ce livre de Jérémie pour nous aujourd'hui. On peut signaler trois interpellations, je dirais, importantes. Premièrement, au milieu de toutes les critiques qu'il formule, Jérémie insiste sur la véritable connaissance de Dieu. Elle ne se résume pas au fait d'avoir conscience de certaines vérités sur le Seigneur, mais implique une relation personnelle avec lui et une manière de vivre qui lui plaît. Il est possible d'être religieux, respecter les règles, les rituels, réciter des prières, etc. Et même connaître par cœur les textes sacrés, tout en passant à côté de ces dimensions intérieures et éthiques de la connaissance de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lance une affirmation surprenante par l'intermédiaire de Jérémie au sujet des théologiens de son temps. Les spécialistes de la loi ne me connaissent pas. Par contraste, il dit au roi Josias qui faisait droit aux pauvres et ainsi qu'aux malheureux et énonce un critère. C'est par là que quelqu'un montre qu'il me connaît. De fait, Dieu affirme que lui-même agit avec bienveillance, exerce le droit et la justice et commande ce sont là les choses qui me font plaisir. Deuxièmement, Dieu annonce un temps où tous dans son peuple le connaîtront. Cela intervient dans le cadre d'une nouvelle alliance, différente de celle conclue au temps de Moïse. Cette fois, la loi sera gravée sur le cœur humain. Autrement dit, les commandements divins seront intériorisés. C'était en Jérémie, chapitre 31, les versets 31 à 34. Précisément, Jésus affirmera et scellera une nouvelle alliance par sa mort. On le voit en Corinthiens. Troisièmement, l'abondance. L'abondance de détails biographiques sur Jérémie a pour les chrétiens un intérêt documentaire ou historique. On discerne souvent trois facettes du ministère de Jésus qui font écho aux caractéristiques des grands livres prophétiques. Jésus est son rôle de roi d'Israël, de prêtre et de prophète. Jésus a, comme Jérémie, critiqué les théologiens de son temps. En particulier, il a annoncé la destruction du temple en Matthieu 24, versets 1 à 2, tout comme Jérémie en Jérémie 7 et 26. Quel encouragement pour nous aujourd'hui. Comme on vient de le voir, le livre de Jérémie est riche en histoire et en images. Et c'est super bien représenté dans le Bible Project, je n'aurais pas fait les mêmes dessins. Qu'il s'agit d'évoquer l'exil à Babylone, le prophète n'hésite pas à tomber sa chemise. Il se promène avec un joug de bois ou un joug de fer sur les épaules. Il porte ainsi la tenue d'un esclave déporté. Et son message explique que pour le peuple, telle sera la conséquence d'avoir abandonné Dieu. Parallèlement, plus tard, quand il s'agit de redonner espoir aux premiers déportés et à ceux qui vont les rejoindre, il achète un champ à son cousin Hananamel, montrant donc que le peuple a encore un avenir sur cette terre. De même, la parole de Dieu en Jérémie 29, verset 11, révèle que Dieu, fidèle à son alliance avec son peuple, s'engage lui-même pour leur avenir. Par la voix de son prophète Jérémie, Dieu nous l'affirme, il veille sur nous, quoi qu'il arrive. Il ne nous abandonnera jamais. Il annonce aussi que le bonheur et la vie sont plus forts que le malheur et la mort. Un nouvel avenir nous est promis, plus heureux, plus paisible pour tous ceux qui écoutent et mettent en pratique sa parole. Dieu nous ouvre un chemin d'espérance pour pouvoir faire face aux situations dramatiques qui déchirent le monde. La paix souhaitée n'est alors plus un rêve, mais une réalité possible, une véritable espérance qui peut nourrir le quotidien, même difficile, de tous ceux qui sont exilés loin de chez eux. L'espérance d'un retour d'exil en s'y préparant déjà. Découvrir et vivre cette parole du Seigneur qui nous met en marche, c'est par exemple concrètement soutenir les missionnaires qui permettent à des enfants de continuer à aller à l'école, leur offrir un avenir possible. C'est aussi travailler pour la paix d'aujourd'hui et de demain, en apprenant à apaiser des situations conflictuelles autour de nous. C'est comprendre également que nous sommes tous appelés à construire la paix, même par de petits actes, et en favorisant un monde de justice et d'entraide. C'est enfin poser cette grande espérance au fond de nos cœurs avec l'aide de la prière. Quel message pour nous en ce début d'année 2024? Chaque année, début janvier, nous fêtons l'Épiphanie, c'est-à-dire la manifestation de Jésus au monde. On l'a vu tout à l'heure avec ce texte qui a été lu de l'avenue des Rois Mages. Jésus est né pour se manifester, se montrer, se faire connaître. Pour manifester l'amour de Dieu, on peut prendre ce passage de Jean 4, versets 8 à 9. Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Le jour de l'Épiphanie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme l'a lu Florine, nous avons lu cette histoire des rois mages. Jésus s'est révélé à eux. Une étoile les a conduits. Ils ont écouté les Écritures et sont arrivés à la crèche de Bethléem. Un autre roi, Hérode, n'a pas voulu reconnaître Jésus, celui devant qui il devait se prosterner. Il a fait assassiner tous les premiers-nés de la région par peur de perdre son trône. Il a eu peur de ce que Jésus lui ferait perdre, et il est passé à côté du Fils de Dieu lui-même, qui était venu à quelques pas de chez lui. Les rois mages, eux, nous montrent l'attitude qui conduit à trouver la lumière, Jésus. Leur intelligence était ouverte. Une étoile les intriguait. Ils l'ont suivi. Ils se sont déplacés. L'étoile les a conduits en Israël. Ils ont écouté les Écritures qui en disaient plus sur ce nouveau-né. L'ayant trouvé, ils se sont humblement prosternés devant lui. Après cette rencontre, ils sont repartis par un chemin différent et se sont laissés transformer. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Le Christ est comme une mine inépuisable. On n'a jamais fini d'en découvrir de nouveaux filons. Je souhaite à chacun de vous, pour cette année, de se laisser conduire davantage par Jésus. Quelle sera notre étoile ? De le découvrir un peu plus, il veut se manifester. De l'adorer et d'en être transformé. Amen.